Chase you out of earth. Il est 20h02 et tout de suite, retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au sein du collectif Génération Sport. Vous êtes bien sur le 101.5 de Radio G et nous sommes bien le 19 novembre 2024. La France du sport est à un tournant après des JO réussis dans l'ensemble. L'enveloppe budgétaire allouée au sport a baissé de 13% pour l'année 2025. Les droits TV sont en forte baisse du côté du foot, entraînant des clubs dans les abysses des problèmes financiers. Des clubs amateurs qui disparaissent de la carte, que cela soit en foot ou encore dans d'autres disciplines. Dans ce monde où l'argent est roi et où le nerf de la guerre, il est le nerf de la guerre, la notion de plaisir n'existe plus. Une équipe de France qui n'intéresse plus personne et qui donne l'impression qu'elle n'a pas conscience qu'elle se coupe de son public. Des dirigeants de fédérations, de districts ou de ligues qui ne veulent pas voir cette déception ou cette colère monter. Étrangement, il y a des motifs d'espoir avec des frères Lebrun, Léon Marchand, Teddy Riner ou le rugby dont on va parler ce soir. Les Français ne demandent qu'une chose. Faire communion avec ses sportifs, son pays, sa nation, et de ne pas maquiller un semblant de communication. Faites confiance dans les clubs amateurs autour de vous, et si vous voulez faire un don, n'hésitez pas à aller les voir. Cela pourrait payer un maillot, un ballon, un équipement ou un déplacement avec un plein ou un repas pour les joueurs. Nous sommes donc le 19 novembre 2024, vous êtes dans Génération Sport, et on va parler de multiples choses ce soir. On n'a pas d'invité, donc on va prendre le temps de vraiment rentrer dans les débats. On va parler de l'équipe de France, parce que l'équipe de France est qualifiée pour la suite de la Ligue des Nations. On parlera de la DNCG, notamment avec toi, Mathéo. Et donc, autour de la table, on va commencer forcément avec notre réalisateur, l'homme de la balle orange, l'homme de basket. Comment vas-tu, Faustin?
Salut Florian, salut tout le monde. Moi, ça va toujours très bien, avec une victoire ce week-end en plus. Un petit 9 points dans le premier carton pour moi. Après, je me suis un peu assoupi, mais ça fait plaisir.
C'est-à-dire que tu t'es resté à 9 points ou pas?
Non, j'ai fini à 12.
Ah, c'est bien quand même. C'est bien, c'est bon. T'as eu un impact par la suite, quoi.
Voilà.
Mais t'as bien démarré la partie. En tout cas, bravo à toi, Faustin, pour cette victoire ce week-end. Est-ce qu'il y a eu victoire pour toi, Amaury, ce week-end?
Alors, moi, ce week-end, c'était tour de coupe au niveau du hand, en coupe qu'on n'a pas spécialement.
Attends, le micro, est-ce que le micro marche?
Le micro.
Tant pour moi, c'est que j'ai allumé le mauvais.
Je recommence du coup. Ce week-end, c'était tour de coupe au handball pour moi. Et donc, coupe qu'on ne joue pas spécialement, mais où on gagne deux fois de suite. Alors moi, j'ai pas joué ce week-end. La coupe, on n'en voit pas toujours énormément de monde. On évite un peu les blessures, etc. Donc moi, c'était un petit week-end à Bordeaux avec des potes. C'était sympa aussi. Mais du coup, ouais, victoire des féminines, des masculins en coupe. Ça va au troisième tour Coupe de France.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà, bonne nouvelle, même si c'est pas un objectif, c'est le championnat, mais ça fait toujours plaisir.
Bon, c'est bien, c'est une bonne chose et toute victoire est bonne à prendre. Mathéo, pas de victoire pour toi, mais je sais que t'as regardé beaucoup de sport ce week-end.
Bonsoir à tous. Oui, j'ai pas mal consommé ce week-end. Voilà, on avait pas mal de sujets sportifs qu'on va couvrir forcément pendant cette émission et je voulais te remercier pour ton petit brief, ton petit point, parce que certes ça nous fait mal, mais c'est quand même important et factuel d'en parler. Ouais. Et j'aimerais aussi dire à nos auditeurs qu'il y a quand même du positif qui existe et que nous on essaie de le rassembler ici autour de bonnes valeurs.
On essaye d'en parler au maximum toutes les semaines. En tout cas, on parle de l'actu locale, mais on parle aussi de pas mal d'actu international aussi. On parle de choses positives. D'ailleurs, on peut annoncer à nos auditeurs que dans 15 jours, on va recevoir les Eagles, enfin de Saint-Barthélemy. On va parler de baseball dans l'émission. Donc, c'est pas forcément un sport qu'on va couvrir tout au long de l'année, mais c'est bien d'en parler aussi, de voir un peu toutes les disciplines qui se font à Angers ou autour d'Angers. Et vraiment, si vous êtes un club d'une discipline qu'on ne parle pas, ou vous sentez que on ne parle pas de vous dans les médias ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur le site de Radio G. Voilà, vous trouverez un moyen de nous contacter, de trouver un moyen de nous écrire pour qu'on puisse parler de vous ou venir dans l'émission parler de votre discipline, parce que nous on aime ça, découvrir des nouvelles disciplines, des nouveaux sports et parler avec vous au plus grand nombre et faire découvrir, donc peut-être gagner des licenciés dans les années à venir grâce à Génération Sport ou à Radio G. Si c'en est un ou si c'en est 10, et on sera content pour vous. L'actu locale, on va en parler dès maintenant. On va commencer avec toi, Faustin. On va parler basket. Ouais. Il s'est passé pas mal de choses ce week-end en basket, et notamment des victoires et des défaites dans la région, enfin dans le département.
On va commencer par les défaites. La première, c'est pour l'UFAB. C'est d'ailleurs leur première de la saison. C'était contre Basketland sur le score de 81-65. Malgré cette défaite, les Angevines restent premières du classement ex aequo avec Bourges et Charnay. Il fallait que ça arrive, mais pas d'inquiétude pour elles. Ça reste un excellent début de saison.
C'est surtout un client, Basketland. Des clientes, je veux dire, dans le monde du basket féminin. On sait que ça reste un très gros club qui va régulièrement en finale en plus, dernièrement.
Chez le top 3 de saison régulière.
Exactement.
Mais déjà, leur début de saison est exceptionnel. Ouais. Aux Angevines, 6 victoires, 1 défaite. On ne pouvait pas rêver mieux, j'ai envie de dire. Et elles enchaîneront dimanche contre Charnay, qui est donc premier ex aequo avec elles. Elles disputeront donc la première place sur ce match. Une autre équipe qui a perdu une fois de plus, c'est l'EAB. Cette fois de un petit point seulement contre Toulouse, 73-72. Ils sont allés jusqu'en prolongation. On y a cru jusqu'au bout, mais c'est sur la dernière possession toulousaine que le sort du match s'est décidé avec un panier. J'ai pu voir l'action. Un peu trop vacillé d'une défense, un peu trop laxiste de la part des Angevins, et qui avait ensuite 15 secondes pour tenter de mettre un panier. Il y a eu un très bon shoot de prix, mais qui a malheureusement été manqué. Très triste défaite de l'EAB de un petit point qui aurait pu leur mettre un peu dans le jus et leur faire sortir la tête de l'eau, j'ai envie de dire.
Ça serait bien que la pièce tombe du bon côté quand même pour eux, parce qu'on sent que il y a ce facteur chance qui pour l'instant leur échappe du côté des Angevins en tout cas. Et là, en tout cas, sur ce match, c'est un peu ça.
Basculer des deux côtés à tout moment, même la fin du temps réglementaire avant la prolongation, c'était à égalité. Les Angevins auraient pu revenir. Ils ont heureusement fait une bonne défense pour ne pas encaisser. Ce match aurait clairement pu pencher en leur faveur à tout moment. Je pense que c'est vraiment dommage. Les joueurs ont dû prendre une fois de plus un coup au moral après ce match. On l'a vu, je pense, dans les images justement à la fin du match où on était un peu par terre, à se tenir à la tête, à pas comprendre ce qui s'était passé. Donc on espère qu'ils arriveront à se relever, surtout que là il y a une petite pause pour eux de 2 semaines avant de revenir contre je ne sais plus qui, car je ne l'ai pas noté.
C'est pas grave.
Et ce sera le 29.
C'est dans 15 jours exactement. Enfin dans une dizaine de jours en tout cas pour l'EAB. Dernier point basket, c'est la fête dans le Maine-et-Loire. C'est le club vedette là. En même temps, c'est eux qui sont en vedette élite. Mais Cholet, c'est monstrueux ce qu'ils font cette année. Là.
Les semaines se suivent et se ressemblent à Cholet. Parce qu'une fois de plus, ça fait deux victoires pour eux. La première en Coupe d'Europe, 104 à 108 contre Constanta. Et la deuxième en Betclic Elite, 80 à 65 contre Le Portel. Ce qui leur permet de rester seul en tête du classement de Betclic Elite. C'est pareil, c'est comme l'UFAB avec un départ historique, j'ai envie de dire, quasiment.
Canon.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça de la part des Choletais, ça fait très plaisir.
Il y a deux départs historiques dans le monde du basket, il y a les Cleveland Cavaliers et Cholet.
on va
essayer de comparer ça quand même un peu à l'américaine. Amaury, côté handball, une défaite encore une fois pour le SCO. Du côté de Caen cette fois-ci en Normandie, du côté du Calvados avec une défaite 35-23, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Et ouais, un changement de coach, on sait, parfois ça fait un électrochoc, ça marche tout de suite, parfois faut attendre un petit peu. Alors là on y a cru pendant une mi-temps, la première mi-temps, ils sont menés que 3 buts, entre guillemets que 3 buts face à une équipe qui joue les premières places du classement, hein. Caen c'est une grosse équipe qui vise clairement la montée. Maintenant, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée. On finit à moins 12, donc moins 9 sur l'ensemble des 30 dernières minutes. Ça fait mal. Maintenant, va falloir s'adapter avec ce changement de coach. On sait que c'est un peu temporaire. La situation est compliquée, mais bon. Maintenant, rendez-vous contre Celesta, gros poisson du championnat, vendredi. Maintenant,
à domicile
Ohara, cette fois-ci, ouais. Ohara. Deux matchs Ohara à la suite à venir, plus peut-être même trois, je vais regarder, parce que le prochain après, c'est de la Coupe de France.
Ouais,
et je me demande si c'est pas aussi Ohara, ouais, exactement. Ouais. Donc trois matchs Ohara à venir en l'espace de un peu plus de deux semaines. Donc peut-être l'occasion de lancer la saison. Maintenant, c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de l'année. On verra bien maintenant avec le nouveau coach. C'est peut-être une nouvelle envie, on verra.
Va falloir se laver les têtes un peu, laver les esprits du côté du hand angevin, mais on croit encore en eux et on est derrière eux, on n'hésite pas à parler d'eux. S'ils veulent venir dans l'émission, nous évoquer un peu leur saison, la complexité de cette saison, ils n'hésitent pas, ils peuvent venir dans Génération Sport sur Radio G avec plaisir. On va passer maintenant au volet avec une double victoire, que ce soit chez les masculins ou chez les féminines. On va commencer avec les féminines parce que c'est elles qui ont débuté le match dimanche. Angers s'est imposé donc face à Marc-en-Barœul 3-7-1. Elles étaient menées 1-7-0, elles ont ensuite enchaîné pour pouvoir s'imposer donc contre la réserve de Marc-en-Barœul. Et chez les hommes, première victoire de la saison, elle fait du bien. Angers s'est imposé 3-7-0 face à Asnières. Ils n'avaient gagné que un petit set et là ils en ont gagné 3. Donc d'un coup, une belle victoire pour les garçons qui vont se sortir tout doucement de la zone de relégation. Ils ont les capacités. Peut-être que cette victoire va être un acte fondateur pour la suite au volet. En tout cas, on l'espère pour eux. En rugby, le SCO s'est imposé 54-29 contre Nogent-le-Rotrou. Les SCOistes sont leaders en hockey sur gazon. Non, c'est en hockey sur glace. En hockey sur glace, excusez-moi, on va commencer par le hockey sur glace. En plus, on a un envoyé spécial, bon, qui n'est pas dans l'émission ce soir, c'est Cédric, on le salue. Cédric, puisqu'il est donc à l'Ice Park. Angers s'est imposé la semaine passée, mardi dernier, contre Sergi Pontoise 4-3, en Angers-Marseille ce soir à 20h30, donc coup d'envoi dans quelques instants. Et puis ensuite, il y aura un déplacement à Anglet vendredi, avant une réception dimanche à 16h30 à l'Ice Park de Amiens. Trois matchs à suivre en moins de 5 jours pour les Ducs. On espère en tout cas de les voir s'imposer et de faire un triptyque magnifique avec les Ducs qui pour l'instant sont deuxième de Ligue Magnus. En hockey sur gazon, le SCO s'est incliné à domicile face à Wattigny, encore une équipe du nord de la France, 2-0. En roller hockey, malheureusement, on les a pas porté chance pour l'instant. Il n'y a pas de victoire depuis leur passage dans l'émission. Défaite contre Rethel, mais bon, Rethel est quand même une grosse équipe du championnat de roller hockey. 7-6, une défaite pour les Hawks. Et on va passer maintenant au football, puisque on va enchaîner ensuite avec le débat équipe de France, avec ce qui s'est passé donc la semaine dernière contre Israël, puis le match contre l'Italie dimanche soir. On va quand même faire un point sur le foot local, avec les U19, le derby Angers-Beaucouzé, un but partout. Beaucouzé 6e, Angers 7e. En U17, les Angevins marchent sur l'eau, le SCO marche sur l'eau, avec une victoire 4-1 à l'extérieur à Rennes, Angers 1er. En R1, Beaucouzé a fait un partout contre Saint-Julien-la-Divette. Mur-Régnier, deux partout face à Vigneux. Les Herbiers, Chalonne-Chaudefonds, 0-0. Chalonne est deuxième, donc de sa poule. Brissac, Montreuil-Junier, 5-2 pour Brissac. La NDC s'est imposée à l'extérieur à Pornic, 2-1. Pelloy-Corzier s'est imposé aussi à La Flèche, 1-0. Défaite de Cheminée à l'extérieur à Carquefou, 4-1. Ensuite, en R3, la Vaillante a fait 3 partout contre Le Mans Villaret 2. Laval Maghreb Saint-Sylvain, 3-2 pour Saint-Sylvain du côté de Laval. Et l'Intrépide s'est imposé 2-0 face à Sablé, la troisième équipe de Sablé. Voilà, en quelque sorte, les résultats du week-end, en tout cas, dans le 49. Et en Coupe de France, quand même, on va quand même signaler aussi la Coupe de France, avec les deux petits poussés qui pour l'instant sont deux équipes de R3, Valence FC en R3 et Le Touquet dans le Nord aussi en R3, qui sont les deux petits poussés donc de la Coupe de France, sans oublier les clubs d'outre-mer. Franchement, si on peut saluer les clubs d'outre-mer aussi de temps en temps, ça peut être sympa. Surtout que je trouve que c'est compliqué parfois pour eux parce qu'ils viennent d'outre-mer en métropole pour pouvoir jouer. Maintenant, ça se fait de plus en plus où les clubs de métropole viennent en outre-mer pour jouer. On salue Saint-Denis FC de La Réunion qui va recevoir US Saint-Philbert de Grandlieu, donc une équipe du 44 en plus. Le RC Saint-Joseph est encore qualifié. Les Diables Noirs de Combani, une équipe de Mayotte, est qualifiée. La JEFC Les Abîmes de la Guadeloupe sont qualifiés aussi. L'AS Dragon de la Polynésie française qui va se déplacer à Dives-sur-Mer, à Cabourg en Normandie, donc la Polynésie française qui va se déplacer jusqu'en Normandie. Et donc il y aura une équipe de Guyane aussi, ce sera soit l'AS Matoury, soit les Aigles d'Or Mana, donc de Guyane, qui vont affronter Thionville Lusitanos en Coupe de France. Mais ça sera donc dans une dizaine de jours, ça sera le week-end du 30 novembre, donc en France, avant l'entrée en les clubs de Ligue 1 au prochain tour ensuite, parce que les clubs de Ligue 2 sont entrés donc pour ce 8e tour de Coupe de France. On va parler de l'équipe de France, Mathéo, je vais te donner un peu la parole sur ce que tu as vu. On fait le lien avec le football. C'était un week-end donc sans victoire, enfin sans Angers qui joue au foot donc dans le 49. Donc on va parler de l'équipe de France. 0-0 la semaine dernière face à Israël. Puis après une victoire 3-1 contre l'Italie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mathéo, de cette rencontre pour les équipes de France?
Ah. C'est un peu la continuité de ce qu'on voit depuis pas mal de temps, et ce qu'on a vu à l'Euro aussi du côté de l'équipe de France, c'est-à-dire que c'est assez compliqué. Il y a les choix quand même de Didier Deschamps qui sont vachement discutables sur pas mal de plans. Après, lui utilise un argument qui est clair et qui est en soi réel. C'est une période de transition pour l'équipe de France. Tu perds beaucoup de vieux joueurs, t'as une nouvelle génération qui arrive avec des Michael Olise, des Manu Koné notamment au milieu de terrain qui sont très intéressants.
Bien sûr.
Maintenant, ça n'enlève rien aux sélections de certains joueurs. Alors, c'est assez paradoxal puisque c'est des joueurs qui ont été marquants face à l'Italie, mais des joueurs qui ne méritent pas vraiment leur place en équipe de France aujourd'hui. Je pense forcément à Adrien Rabiot, qui a mis son doublé, mais qui ne réalise pas le début de saison qu'il devrait faire dans une équipe de Marseille qui reste quand même à sa portée, hein. C'était quand même une énorme recrue et c'est une énorme chose de le voir aujourd'hui à Marseille. C'est super pour notre championnat. Tout de même, il faut le dire.
Complètement.
Maintenant, le match contre Israël, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que l'équipe de France est tombée sur une équipe beaucoup plus faible sur le papier, mais qui s'est quand même bien battue, surtout avec tout ce qu'on a vu autour de ça. J'ai pas vraiment envie d'en parler, mais le contexte était vraiment compliqué. Voilà, mais à ce niveau-là, c'est vrai que l'équipe de France doit quand même avoir beaucoup plus d'envie, même si quand même cette victoire contre l'Italie permet aux Français de retrouver cette première place aussi en Ligue des Nations qui était importante, même si on savait déjà qu'on était qualifié pour les phases finales, c'était quand même important d'avoir cette première place dans une poule qui était quand même largement à notre portée. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ces rencontres. Moi, je suis quand même pas convaincu pour les compétitions à venir et notamment pour cette phase finale de Ligue des Nations.
Amaury, ton ressenti sur au moins le match contre l'Israël. Je sais que tu l'as pas vu forcément celui contre l'Italie.
Mais... Je suis parti en week-end vendredi soir et je suis rentré dimanche soir assez tard. J'ai pas pu voir les matchs. Après, je me suis quand même un peu renseigné. Moi, si on peut apporter un peu de positif, faut se dire quand même que finalement, ouais, on arrive à être premier malgré qu'on joue mal. Comme à l'Euro, on a réussi à aller en demi-finale malgré le fait qu'on joue mal. Et donc,
c'est le mystère des champs.
C'est peut-être, voilà, c'est ça. C'est en fait, c'est presque. Non, je vais pas dire c'est ce qui se passe depuis le début de Deschamps vu qu'on a quand même joué plutôt bien quelques années. Mais faut garder aussi ce côté-là, se dire que peut-être en arrivant à améliorer quelques petites choses, on peut vraiment redevenir l'équipe qu'on a été il y a pas si longtemps. Peut-être qu'avec le retour à leur niveau de certains joueurs, dont un qui est actuellement pas en équipe de France et qui porte un maillot blanc et un brassard de capitaine normalement, et qui quand il est à son meilleur niveau, bah ça change une équipe. Maintenant, moi, je vais essayer de garder ce côté positif, même si bah, Mathéo l'a très bien expliqué. C'est décevant ce qu'on voit quand on regarde les matchs et on s'ennuie de plus en plus. Et par exemple, un France-Italie, t'en parlais en début d'émission sur le désintérêt du football. Un France-Italie, je pense, il y a une dizaine d'années, tout le monde aurait sauté dessus et l'audience aurait été énorme. Aujourd'hui, bah, moi qui revenais de week-end, j'ai pas fait en sorte de revenir 2-3 heures plus tôt pour pouvoir voir le match. Ça aurait été le cas il y a quelques années.
Faustin, ton avis sur cette période de l'équipe de France, là, cette trêve, la dernière trêve de 2024 en tout cas.
Bah, c'est clair que c'est une équipe beaucoup moins convaincante que ce qu'on a connu. Surtout, je pense avec le match contre Israël, un 0-0 contre Israël, c'est décevant. C'est une équipe contre qui on doit mettre peut-être 3-4 buts assez facilement. Là, c'était quand même une équipe qui a tout misé sur la défense. Hein. Ils ont mis le bus dans la surface, c'était compliqué. Mais il y a eu quand même des problèmes de finition, je trouve, et c'est peut-être un peu ce qu'on retrouve chez les joueurs qui sont mis en place, Dembélé, toute sa carrière a eu du mal à mettre des buts. Barcola, il est jeune, mais même avec le PSG, on l'a vu des fois avoir des problèmes de finition, et c'est peut-être ce qui pêche dans notre équipe de France. Après, contre l'Italie, on met trois coups de pied arrêtés, même, du coup, avec le contre son camp, je sais pas si ça compte.
Enfin, c'est... Si, il est comptabilisé comme contre son camp
de Vicario, ouais.
C'est dommage, ça aurait été le premier but, je crois, de Lucadine en équipe de France. Donc,
Et après, la balle rentrait pas. C'est aussi ça, c'est que.
C'est
la barre. La barre était sortante, et c'est le gardien en ce temps qui la met dans le but.
J'ai le mauvais point de vue, je pense, du coup.
Mais bon, il est bien frappé.
Ah, par contre, oui.
Il n'y a rien à dire, soit.
Personne s'y attendait, en plus de.
Ça faisait longtemps de voir un truc comme ça. C'est clair.
Mais oui, du coup, pour revenir sur l'équipe de France, il y a quand même quelques joueurs qui là sont nouveaux. Je pense surtout à Manu Koné, qui a fait un boulot monstrueux au milieu de terrain, qui a fait vraiment un chantier de malade. Et c'est bien pour les prochaines années, parce que peut-être que N'Golo Kanté pourra pas poursuivre encore pendant très longtemps. Même si on aura peut-être le retour de Paul Pogba, on sait jamais. Même si c'est quelque chose qui m'étonnerait un peu tout de même. Mais ouais, j'ai été moins convaincu que je l'étais il y a peut-être 2-3 ans par cette équipe de France.
Écoutez, pour avoir regardé le match sur la RAI, du coup, la chaîne italienne, donc j'ai pu avoir le point de vue un peu des Italiens. C'est vrai que les Italiens, eux, ont donné un peu l'impression d'avoir lâché la rencontre, de pas forcément s'être donné à fond. Après, il y a un gros problème sur coup de pied arrêté en Italie, où ils ont pris énormément de buts dans cette Ligue des Nations sur coup de pied arrêté. Donc, c'est vraiment une faille peut-être qui a été exploitée par Didier Deschamps, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, il y a eu des buts sur coup de pied arrêté qui ont été encaissés par l'Italie. Et puis, il y a un gros problème aussi devant. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de numéro 9 réel en Italie. C'est le gros problème. Hein. Ils ont retrouvé là, un milieu de terrain qui était quand même conquérant. Ils ont des très très bons joueurs. On voit que l'arrivée de Tonali a fait en sorte que ça change tout complètement dans cette équipe. Maintenant, c'est une belle victoire de l'équipe de France à l'extérieur. Du coup, en plus à Milan, à San Siro, dans un match vedette. Moi, ce qui m'inquiète, et j'aimerais bien avoir votre point de vue, est-ce que c'est irrémédiable? Ou est-ce qu'il faut vraiment attendre l'après Deschamps pour voir en fait des audiences monter? Parce que Amaury, tu le disais, un match France-Italie il y a 10 ans, je pense que ce match-là aurait été complètement regardé et il y aurait eu plus de monde devant la télé. Là, on est quand même sur un gap qui est monstrueux. On va parler rugby tout à l'heure. Le samedi, il y avait le rugby qui fait quasiment 7 millions de téléspectateurs. On va même voire même un peu plus. Je crois qu'il y a un pic à 8 en plus, il me semble. Là, le foot, on est dimanche et pourtant le samedi, tu vas plus peut-être chez des amis, tu vas peut-être manger quelque part, tu sors plus facilement un samedi soir qu'un dimanche soir. Et là, dimanche soir, le foot, c'est un poussif 5 millions 5, c'est vraiment même peut-être 5, pas plus quoi. Donc est-ce que ce manque d'engouement est irrémédiable selon toi, Mathéo?
Moi, je ne pense pas quand même. On a toujours un intérêt grandissant pour le sport en France. Ça fait quand même quelques années que ça grandit et que c'est multisport. C'est aussi pour ça que c'est intéressant le fait que le rugby fasse des aussi grosses audiences. Maintenant, le problème du football et notamment de la Fédé en France, c'est que l'extra-sportif, pardon, est beaucoup plus riche et intéressant malheureusement que le sportif en lui-même. On voit beaucoup plus de choses en dehors des terrains. Tu nous parlais d'Mbappé tout à l'heure à Maurice. C'est un peu le questionnement aujourd'hui. Pourquoi n'est-il pas revenu alors qu'il n'était pas blessé? Il y a beaucoup de questions qui vont arriver et qui vont continuer d'arriver cet hiver. Maintenant, je pense que les Français ont quand même cette envie de continuer de regarder du football. On a aussi une super génération qui arrive. On a des joueurs excellent à tous les postes. Aujourd'hui, la France sous-performe, c'est une réalité, et c'est une réalité depuis plusieurs années. Tu vas à l'Euro, normalement, tu ne vas pas à l'Euro avec cette idée de te faire museler réellement par l'Espagne en demi-finale, même si ça n'a pas été le cas pendant les 30 premières minutes. Mais qu'on soit clair, tu ne dois pas sortir ce genre de prestation contre l'Espagne. Ça n'est pas possible. Il y a eu des compétitions qui étaient vachement frustrantes, et je pense que la finale de la Coupe du Monde cristallise un petit peu tout ça aussi. Le fait que la France était ultra favorite et là aussi se fasse museler, on ne sait comment, par une Argentine qui là aussi n'avait pas vraiment le niveau d'une équipe championne du monde. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Je pense que Deschamps a fait son temps, ça c'est clair. Maintenant, je pense que concrètement, le football français n'ira pas mieux tant qu'il n'y aura pas beaucoup de changements en interne. C'est une réalité. On a des présidences au niveau de la fédération bientôt. Il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça change. Et ça se limite malheureusement pas à la fédération. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais...
Amaury, une réaction là-dessus?
Non, moi c'est plutôt sur le fait que par rapport avec Deschamps, je pense que ça peut quand même revenir, quand on était il y a 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans exactement, la Coupe du Monde quasiment. Il y a 2 ans, même si le jeu était pas non plus exceptionnel à la Coupe du Monde, hein, quand on passe à l'Angleterre, tout, c'est pas des matchs où on joue exceptionnellement bien. Et finalement, quand on regarde la finale de la Coupe du Monde et même les audiences, je pense qu'il y avait à ce moment-là, on était tous devant notre écran. Moi, je vois, j'étais à l'école, les matchs, ils étaient à 14h, on était tous à sortir pour regarder le match. C'était il y avait un vrai engouement autour de l'équipe de France, alors que le jeu n'était pas exceptionnel. Le jeu l'a été encore moins à l'Euro, ce qui a, je pense, conduit au désintérêt qu'il y a là. Mais si on redevient une équipe qui rejoue un peu mieux, que ce soit avec Deschamps ou non, je pense que l'intérêt va revenir des gens, parce que l'équipe de France de foot, ça reste le sport le plus populaire en France, le sport que tout le monde pratique, entre guillemets, où il y a le plus de pratiquants, donc où tout le monde a joué dans la cour d'école. Je pense que ça reviendra. Maintenant, la question plutôt, c'est est-ce que l'équipe de France avec Deschamps est capable de reproduire du jeu comme elle l'a fait avant, et non rester dans cette courbe, cette mauvaise courbe, cette courbe descendante qu'il y a maintenant.
Est-ce que le rugby aussi, il y a aussi la concurrence avec d'autres disciplines. Le rugby fait augmenter, le basket, même s'il y a moins de matchs que visibles chaque été, quand il va y avoir Wembanyama et compagnie, ça peut aussi faire en sorte que cette visibilité augmente, en tout cas pour l'équipe de France de basket. Est-ce que les problèmes aussi de Ligue 1, de visibilité avec DAZN, avec les problèmes avec la Brune, avec la Ligue de la LFP, il y a aussi plein de choses qui font que, alors peut-être que c'est moi qui suis un vieux trentenaire, mais peut-être est-ce que le fait de voir aussi les défilés des joueurs, avec les joueurs qui se coupent d'une partie de la population, de personnes qui suivent, parce que voilà, faut penser aussi aux cinquantenaires, aux soixantenaires qui regardent l'équipe de France, mais qui se reconnaissent pas forcément là-dedans parce que on se coupe là-dessus, parce que le jeu aussi ne n'est pas proposé. Il y a beaucoup de choses qui disent que c'était mieux avant, dans les années 80, forcément avec Platini ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, mais il y a plein de questions que je me pose. Faustin, est-ce que tu as une idée là-dessus ou c'est vraiment
L'extra-sportif, ce que tu dis sur l'arrivée des joueurs à Clairefontaine, c'est ce dont tu parles. Je suis pas sûr que c'est ça qui fasse qu'il y ait moins d'audience vraiment, mais je pense que ça peut quand même créer un désintérêt à se dire que ces joueurs pensent à autre chose qu'au foot, et que nous on veut une équipe de France focalisée sur le foot avec des excellents joueurs. Mais l'autre souci aussi, c'est pareil dans ce que tu disais, le fait qu'on voit pas nos joueurs évoluer en Ligue 1. Je pense que j'ai pas les chiffres des abonnements d'Azone, mais ils sont assez
on a moins de 200 000.
Ouais, voilà, c'est affolant tellement c'est peu, et je pense que ça c'est aussi un gros problème, de voir nos stars en attaque qui sont Barcola, Colomboigny et Dembélé, les trois ils jouent au PSG, et les trois tu peux les voir jouer qu'en Ligue des Champions, et encore si t'as Canal Plus ou non, même plus beIN Sport du coup, uniquement Canal Plus. Donc je pense que ça c'est peut-être un des plus grands soucis qui fait qu'il y a un désintérêt de l'équipe de France et même du football peut-être en général même.
Gagne réaction.
Comme tu veux.
Non, vas-y Amaury.
Tout à l'heure tu parlais aussi par rapport au fait des autres sports et donc le fait d'avoir de la concurrence du rugby et tout, et je pense que finalement les JO, s'ils ont eu un impact positif pour le sport en France, il en a peut-être eu un tout petit peu négatif sur le football, où les gens ont découvert qu'il y avait d'autres sports. Il y en a qui sont mis je vais regarder du tennis de table, il y a les frères Lebrun, j'ai envie de regarder ça. Il y en a qui vont regarder peu importe. Les sports au JO, il y en a des centaines. C'est pas ce qui manque. Mais donc du coup, bah les gens, ils ont pas un temps illimité non plus. Si je regarde le ping-pong à 14h et que je regarde un match de rugby à 16h, bah peut-être que le soir, j'ai pas regardé non plus le match de foot parce que bah je peux pas regarder le sport toute la journée, même si j'aime bien le faire. mais voilà, donc je pense que ça a eu un impact positif sur le sport en général. Est-ce que ça en a eu un sur le foot? Je suis pas sûr.
Mathéo, pour terminer. Bah,
moi, je vais te rejoindre à Maury, parce qu'il y a une réalité qui est là aussi, c'est que l'équipe de France est beaucoup plus déconnectée, la fédération française est beaucoup plus déconnectée depuis des années, et ce qui fait que ça polarise un petit peu la fédération française et les autres fédérations de sport. Donc aujourd'hui, on a une montée de ces sports-là au niveau populaire, et c'est très très bien, sauf qu'il y a tellement un éloignement qui est fort, qu'aujourd'hui, quand moi je regarde l'équipe de France de rugby, je peux plus facilement penser à l'équipe de France de basket qu'à l'équipe de France de foot. Pour moi, c'est limite une entité à part, cette équipe de France de foot. Ouais. Et il y a un point aussi qu'on n'a pas abordé pour parler du désintérêt de la sélection de l'équipe de France. Et ça, je vais finir là-dessus. C'est le fait qu'on ait beaucoup trop de trêves internationales. Oui. On en a beaucoup, beaucoup trop. Alors là, c'est paradoxal parce que la prochaine est en mars.
Aussi.
Et oui, on en a là tous les mois et demi depuis que la saison a commencé. Et c'est pas possible.
Donc en fait les gens peut-être qu'ils font une overdose aussi de foot en général
parce que ça c'est évident,
les trêves internationales, la Ligue aujourd'hui. Des Nations, les Coupes d'Europe, la Ligue des Champions, l'Europa League, enfin les championnats du monde des clubs en fin de saison, donc je pense que peut-être que les gens font une overdose selon vous.
Non mais bien sûr. Je pense que ça énerve tout le monde cette trêve, ça énerve le spectateur. Je suis sûr que les joueurs des fois ils aimeraient aussi rester un peu plus longtemps en club, pouvoir bosser avec leur club. Les entraîneurs des clubs, on n'en parle pas. Moi, en suivant Marseille, Roberto De Zerbi, il l'a dit en conférence de presse, construire quelque chose quand tu as tes joueurs pendant un mois. Avec des matchs et tout. Alors même si à Marseille t'as pas 50 000 internationaux, mais je pense encore plus aux gros clubs qui ont plein d'internationaux. Je voyais une image du Real, Mbappé avec qui il s'entraînait. Il y a pas un joueur qui joue le week-end quoi. Donc je pense que ça énerve le téléspectateur, le joueur en partie parce que je pense qu'il a pas tout le temps envie. Alors peut-être que je me trompe là-dessus, mais les coachs et les clubs encore plus. Et donc du coup ça en fait je pense que ça en c'est un global derrière qui va être sur le désintérêt et du football de sélection et du football de club. Ça a pas un impact positif non plus.
Bon, voilà, c'était notre petit point sur l'équipe de France ce soir. On a donné des pistes. Voilà, en espérant que la Fédé écoute Génération Sport et Radio G, donc le 101.5. On va envoyer le podcast à Philippe Diallo. Il y a pas de problème là-dessus. Faustin, quelle est notre petite pause musicale de la soirée?
Et ben ce soir on va s'écouter la musique que j'ai le plus écoutée cette année, parce que aujourd'hui j'ai mon My Deezer Year.
Jugeons.
Alors attention. Avec plaisir.
Régale-nous.
J'ai écouté 168 fois cette année, c'est Ivy de Baby Hayabusa.
Elle m'a laissé descendre, juste une cigarette, tachée de rouge à lèvres. Elle m'a laissé du temps, juste ce qu'il fallait, pour que j'oublie que j'arrête. Toi et moi c'est pas possible comme Magnetina. Les ailes dans le dos et les cornes sur le front, je ne sais plus quoi faire. Je me regarde sombrer, je la regarde danser, je bois un dernier verre. Et puis le soleil sort de la pénombre, tout devient plus pénible, presque les traces de tes ombres. Un message texte, une photo dans l'ombre. On a fait comme ça des années, tu ne connaissais même pas mon nom. Donc j'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Ivy, jusqu'à j'en perds ma vie. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Au revoir. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Ivy, jusqu'à j'en perds ma vie. Quand le ciel pleure, tu n'es plus là pour m'accompagner. Boulevard des pleurs, j'ai ton fantôme en ma compagnie. Big bag de Mika, j'en envoie deux par deux. Affilié aux trois lettres, c'est comme le PPP. Y'a des vassaux et y'a des longues épées. Donc j'irai jusqu'au bout de la nuit pour te retrouver toi, celle qui me récupère toujours en sale état. Tout en silence, crève-moi les deux yeux, prends mon cœur aussi. Pour te retrouver toi, celle qui me récupère toujours en sale état. Tout en silence, crève-moi les deux yeux, coupe ma carotide. Thank you.
mal les deux, je coupe ma carotide. Elle a troué mes ailes avec la chevrotine. Y'a plus que l'odeur des cendres, la chambre devient vide. T'es parti en décembre, t'as dit on se revoit vite. Dans le fond d'un flac qui parfois je nous revois vivre. Y'a tellement de choses que j'aurais voulu te dire. Je sais que t'étais capable de me sortir de tout ça. J'ai oublié le goût du dernier poussard. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'à j'en perds ma vie. Donc j'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit.
Ivy de Baby Hayabusa, c'est ça, Faustin?
Exactement.
J'ai répété pendant toute la chanson.
T'es très, très bon.
Même quand j'étais chercher le truc, je me disais mais comment je vais faire pour réannoncer le titre de derrière quoi. Donc c'était le titre de Faustin, écouté 168 fois sur son Deezer. Exactement. Cette année. Je pense qu'il va faire plaisir à mes élèves celui-là. Parce que moi je connais pas le titre de la chanson, mais je pense que si je le partage ce soir, ouais, sur les réseaux sociaux,
on va dire des nouvelles.
Ouais bah écoute, on verra ça.
Rendez-vous
la semaine prochaine, exactement, pour débriefer tout ça. On va passer avec vous, les garçons, avec Mathéo, avec Amaury. On va parler d'une acti sportive. On a 25 minutes devant nous. Vraiment, on a du temps pour vraiment débriefer tout ce qui s'est passé dans la planète sport. Donc, ce week-end ou même dans les jours à venir. Eh bien, écoutez, je vous laisse et on va pouvoir en parler tous les quatre dans l'émission Génération. Alors, Sport.
Tu veux qu'on commence par parler de Lyon ou on terminera par parler de Lyon?
On peut commencer, pourquoi pas, parce que là aussi, ça va être un débat. Je ne parle pas uniquement de Lyon, hein, évidemment, puisque c'est la période un petit peu hivernale où on a les sentences de la DNCG. C'est souvent assez croustillant. Et donc là, vendredi 18h, la décision tombe. Donc la DNCG, le gendarme financier du foot français qui avait réunion à 9h le matin avec les dirigeants de l'OL, prononce sa sentence, encadrement de masse salariale, interdiction de recrutement pendant le mercato d'hiver et surtout relégation administrative provisoire à l'issue de la saison. Alors revenons déjà un petit peu sur le pourquoi du comment l'OL en est arrivé là avec un comparatif simple. Lors du rachat de l'OL par Eagle Group et donc John Textor, la dette du club était aux alentours de 250 millions d'euros. La promesse était alors dans 2 ans d'effacer cette dette et on est 2 ans après et elle s'élève aujourd'hui à 500 millions d'euros. C'est ce chiffre sorti début de... Ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes, exactement. Donc c'est ce chiffre sorti en début de semaine dernière qui met la puce à l'oreille de la DNCG, laquelle d'ailleurs ne s'est jamais privée de sanctionner durement certains clubs opposés, notamment à Vincent Labrune, mais surtout à Nasser El Khelaifi, pardon. Parce qu'il faut savoir quand même que Jean-Marc Mikeller, qui est le patron de la DNCG, a sa fille qui bosse au Paris Saint-Germain. Donc ça reste une information, vous la prenez comme vous voulez. Enfin, les chiffres sont là, donc l'OL était obligé de les dévoiler comme n'importe quel organisme rentré en bourse, et c'est le cas d'Eagle Group, le même groupe qui est composé donc de 4 clubs, Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek et donc l'OL. La dette n'est donc pas exclusive à l'OL, sachant que Lyon a beaucoup donné pour couvrir notamment les dettes du club brésilien, voilà, qui se trouvait dans une période assez compliquée lors du rachat, notamment donc pour payer le stade ou alors certains transferts. Et c'est dans ces transferts que réside la véritable solution pour l'OL. Puisque le club n'est actuellement pas inquiet pour ces raisons-là, Botafogo est redevable et surtout ses joueurs qui performent le plus ont été achetés par l'argent de l'OL via holding. On peut donc citer notamment, peut-être que vous les connaissez, Luis Enrique, qui a été acheté au Betis Séville pour 17 millions, qui est devenu international brésilien, et surtout donc un certain Igor Jesus, qui est le nouveau buteur de la Seleção. Ça aussi, alors lui, il est plutôt arrivé libre, donc pas avec l'argent de l'OL, mais il est arrivé il y a 6 mois, il performe beaucoup et il a notamment une énorme cote en Première Ligue. C'est aussi le cas pour Luis Enrique, donc c'est des joueurs qui pourraient être vendus entre 30 et 40 millions cet hiver, puisqu'il faut aussi le dire, c'est bientôt la fin de saison au Brésil, et d'ailleurs Botafogo est qualifié en Copa Libertadores, en finale, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions sud-américaine. Et donc le petit dernier, c'est Thiago Almada, qui lui est beaucoup plus connu. Sûr, je pense que vous le connaissez, il est international argentin, champion du monde, et il devrait arriver à l'OL cet hiver, même si ça est encore flou, donc parce que comme je l'ai dit, le club est interdit de recrutement, sauf que le transfert apparemment a été fait cet été.
Ouais.
Donc voilà, c'est assez compliqué, c'est assez flou. Et a priori, il remplacerait donc Ryan Cherki, qui aurait des touches en Première Ligue et notamment à Liverpool. Voilà. Et on parle également donc de 40 millions d'économies sur les salaires, pardon, notamment sur ceux de Lacazette, Matic, Lopez, puisqu'on rappelle que les 120 millions que l'OL doit trouver, oui, c'est assez compliqué, hein, c'est des mathématiques. les 120 millions que l'OL doit trouver, c'est jusqu'à la fin de saison. Donc c'est pas uniquement cet hiver, et on a notamment des joueurs libres, donc comme Lopez, qui aujourd'hui pèse à peu près 400 000 euros par mois, ce qui donne un équivalent à 3,5 millions.
Est-ce qu'il va avoir envie de partir aussi ?
Il est libre. Après cet été, c'est là il lui reste 6 mois de contrat, donc il va pas vraiment avoir le choix à ce niveau-là. Et enfin la dernière inquiétude, alors ça c'est beaucoup plus sportif et ça dépendra notamment donc de cet hiver, c'est que l'OL doit à nouveau se qualifier en Coupe d'Europe. Ça c'est impératif, et notamment donc la Ligue des Champions. Mais moi j'avais une question pour vous tous autour de la table. Est-ce que ça vous inquiète, vous, tous ces nouveaux investisseurs, donc comme John Textor avec l'OL, mais on en a eu beaucoup d'autres en Ligue 1 qui sont un petit peu véreux et qui arrivent dans notre championnat, et derrière on a justement ces décisions purement financières qui peuvent potentiellement détruire ces clubs-là. On a eu l'exemple avec Bordeaux récemment.
J'en veux beaucoup aux anciens présidents. J'en veux énormément aux anciens présidents. Aulas pour Lyon, ou même et le groupe M6 pour Bordeaux, ou même t'as d'autres présidents par le passé qui ont vendu leur club à des clubs qui donc à des fonds de pension américains, ou alors à des multipropriétaires de clubs, en sachant très bien que derrière, bah, ces clubs vont pas forcément être la priorité ou vont dépendre d'autres clubs. Donc j'en veux vraiment beaucoup. Enfin, Aulas, la fin de sa fin de mandat, sa fin de,
elle est triste.
Elle est triste. Et enfin, tu Lyon. Mais après, moi, pour connaître ce que j'ai vécu à Lens avec donc Martel qui avait vendu ça à Hafiz Mamadov, donc un Azerbaïdjanais, un Azeri, qui avait quasiment coulé le club. Hein, veut dire, on aurait pu Lens, aurait pu être Bordeaux, aurait pu être d'autres clubs comme par le passé. Donc ça fait peur, parce que du coup, si tu vois Lyon descendre en Ligue 2, t'es pas à l'abri aussi qu'à un moment donné, bah, y a un dépôt de bilan aussi, parce que, ou un peu comme à Bordeaux, où tu dois démarrer en N3, et donc et voir l'Olympique Lyonnais en N3, ça serait quand même incroyable de voir un club le multi-champion dans les années 2000 descendre là 20 ans après, quoi. Donc ça serait quand même malheureux et compliqué, quoi.
Bah, puis surtout quand on regarde récemment, il y a quand même une demi de Ligue des Champions en 2020.
Oui, en plus.
Je dis quand même, c'était il y a 4 ans.
Ouais.
C'est quand même, tout va vite dans le foot. Et vous les gars, justement, est-ce que vous avez peur pour nos clubs français? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut plus faire confiance à aucun investisseur. C'est des gens qui arrivent avec un tas de magouilles, de micmacs. J'ai parlé d'holding dans ma petite chronique. Est-ce que toi, ça te fait peur, Amaury?
Mais moi, c'est tous ces investisseurs étrangers, notamment américains, qui arrivent et qui, en fait, on n'a pas la même économie ici que là-bas, et notamment dans le football, mais même autrement. Et en fait, ils s'entourent pas des bonnes personnes dès le début, des personnes qui connaissent cette économie-là et surtout qui connaissent le football. Et bah ça va très mal. On a vu on l'a vu à Marseille avec Jacques Henri Hérault quand il était arrivé, qui avait été placé par Franck McCourt. Ça a pas du tout fonctionné, que ce soit sportivement, financièrement. Derrière, on a Lyon ici où sportivement, en fait, on va dire qu'on a des hauts et des bas. On peut pas dire que ça fonctionne pas du tout, mais c'est pas non plus le Lyon qu'on a connu, qui était en Ligue des Champions en 2000, Ligue des Champions il y a quelques années. On a d'autres clubs où c'est comme ça. Moi, c'est vraiment ces investisseurs étrangers. On parlait l'autre fois finalement du Paris FC qui était racheté par une fortune française. Et ben finalement, ça je préfère largement. Maintenant, c'est le problème des multipropriétés aussi. Tous ces clubs avec des transferts un peu arrangés entre eux. Je suis pas fan. Maintenant, comment ça va se passer pour Lyon, je me suis pas encore assez posé sur le sujet, même si je lisais une interview de Sidney Govou qui lui disait qu'il en voulait aussi beaucoup à Jean-Michel Aulas et la fin de son mandat, ou la manière dont il a géré le club en spéculant beaucoup et en étant plus à la même longueur d'onde que ce qu'il avait fait pendant tant d'années, et pour lequel il a apporté énormément au football français, à l'Olympique Lyonnais, mais aussi au football français, faut le reconnaître. Voilà, c'est un avis qui est surtout sur ces investisseurs étrangers, toutes ces multipropriétés où je suis pas d'accord.
T'as ça, mais t'as aussi le côté où tu payes dans cette dette de 250 à la base, puis maintenant 500. Donc après, bien sûr, t'as les autres clubs de Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek, mais t'as aussi, et comme beaucoup de clubs en France, tu payes encore une fois, 4 ans après, quasiment 5 ans, l'arrêt de ton championnat.
Ah bah
l'arrêt de ton
sûr.
Championnat pendant le Covid. Où en fait, où t'as pas eu de rentrée d'argent, où t'as pas continué à faire ton championnat, donc t'as Donc tes compétitions étaient pas, même si t'avais personne qui rentrait dans les stades, au moins ta compétition serait continuée, t'aurais eu une distribution et t'aurais une visibilité des matchs à la télé. Enfin, bref, tu payes ça encore, tu payes cette décision, là où toutes les, où tous les autres championnats ont repris, la France a décidé, et là aussi, enfin, derrière, même si derrière t'as eu des, t'as eu un prêt garanti par l'État, qui maintenant tous les clubs doivent rembourser, parce que bah, comme toutes les entreprises en France, hein, doivent rembourser ce prêt garanti par l'État, ce PGE, et ben, au final, bah, on se retrouve dans une galère financière et dans des dettes qui sont incroyables. Alors après, il y a des choix qui ont été faits par Lyon dans, dans des achats de joueurs ou même qui vont payer, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, tu vois, j'en rigolais ce week-end en me disant, bah, ça se trouve, Molenbeek, ils vont faire une offre à 100 millions, à 100 millions pour Ryan Cherki, il va jouer en Belgique, voilà, tu vois, pour sauver le club ou Crystal Palace. Mais bon, bref, c'est vraiment la galère pour l'Olympique Lyonnais et je pense que, bah, ça serait bien que ce club-là réussisse à se maintenir, en tout cas, parce que même si on peut les détester, on peut les aimer ou pas, ah, ça reste un club mythique du championnat de France qui doit rester en Ligue 1, quoi.
Mais par contre, moi j'avais une question sur tous ces achats de joueurs entre clubs de même avec même propriétaire. J'avais cru entendre que ça ne comptait plus entre les pour ces bilans financiers, que un rachat d'un club, bah, par exemple ici Molenbeek ou un autre ou Crystal Palace, ça ne compterait plus. Ça compte ou j'ai mal compris
Ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, si Molenbeek rachète un joueur de l'OL, ouais, c'est pas compté comme de l'argent dans la dette financière.
Ok, bah moi c'est ce que
non, mais c'est ça la question.
Ouais,
que
c'est ça, ouais.
Je pense que non. Je pense que non, parce que sinon l'Olympique Lyonnais, c'est simple, l'aurait déjà fait depuis longtemps avec des joueurs.
Et du coup, là où ça va être compliqué, c'est que, bah, comme dans à chaque fois cette situation-là, les clubs qui vont venir pour acheter les joueurs, ils connaissent la situation, ils vont pas sortir le chéquier, ils vont dire, bah, de toute manière, vous êtes en besoin. Nous, on va pas poser 35 millions sur Ryan Cherki, on va dire, on va poser 15. Et bah, si vous avez, vous avez absolument besoin de vendre, bah, vous acceptez à 15. Alors, peut-être que ça montrait un peu plus haut, mais j'ai peur que ça monte vraiment pas haut sur ces joueurs-là pour l'OL.
Après, ça reste des erreurs qu'ils ont fait par le passé aussi. Hein. Il y avait des offres à un moment donné sur Cherki, ils n'ont pas accepté. Exactement. On regarde à l'époque aussi sur les offres sur, comment il s'appelle, Nabil Fekir, en post-Coupe du Monde, victoire de Coupe du Monde, il a des offres pour partir en Angleterre, il les prend
pas. Il devait signer à Liverpool. C'est la visite médicale qui a capoté, mais on a quand même des vidéos d'interview de Nabil Fekir à Liverpool.
Mais il y a plein de trucs comme ça, je trouve. Il y a des choix du club qui n'ont pas forcément répondu. Qui n'ont pas forcément été saisis au bon moment, et donc du coup, bah, on se retrouve avec un club qui peut mourir à tout moment.
Voilà. Ouais. Mais après, pour finir juste avec Ryan Cherki, quand même là, le début de saison qui nous sort, c'est un truc assez impressionnant, surtout au niveau statistique, où en fait, il est dans les 1-2% des dribbleurs d'Europe.
Merci Thierry Henry pour moi.
Bah, potentiellement, peut-être qu'il y a une remise en question et aussi une maturité. C'est un joueur qui a quand même été exposé au football professionnel très tôt.
Ah oui.
Très très tôt. J'étais retombé là cette semaine, il y a une vidéo qui a tourné d'un match entre Cherki et Xavi Simons en U13. Je veux dire, t'as quand même Cherki qui était là, qui était présenté et qui survolait et qui surnageait. Et voilà, donc aujourd'hui, ça reste quand même une anomalie son prix, parce que je pense pas qu'il sera vendu 15 millions. Non. Mais il sera pas vendu 50-60. Alors qu'aujourd'hui, ses performances de début de saison reflètent celles d'un joueur qui est vendu dans ces eaux-là, parce qu'il fait partie des meilleurs dribbleurs d'Europe, statistiquement parlant. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il devrait être vendu entre 25 et 30 millions et que c'est déjà une belle victoire pour l'OL qui devait le vendre cet été.
Il
pour
a quel 10. Âge, Ryan Cherki?
Il doit avoir 20, 21.
Ouais, il reste très très jeune en même temps.
Bon, voilà. On va voir pour la suite pour l'Olympique Lyonnais. Pas de Trump Dance pour l'Olympique Lyonnais.
Non, pas ce week-end en tout cas.
On conseille ce petit mème qui est en train de, je pense qu'il va fleurir sur toutes les pelouses ou toutes les.
Pulisic l'a fait.
Pulisic l'a fait aussi.
Ça
l'a
jamais eu, quoi.
Eh ben, écoute, voilà. Il va y avoir la Trump Dance dans tous les sens, sauf à Lyon. À moins qu'il y ait un joueur américain dans l'effectif lyonnais, il me semble qu'il y en a un.
Ouais, Tanner Tessman.
Voilà,
bah, peut-être le meilleur milieu des États-Unis que Pochettino a encensé, comme la relève de Matic.
Eh ben. Écoute, on verra la suite en tout cas pour l'Olympique Lyonnais.
Il sait avec un grand sourire parce que j'adore Tanner Tessman.
Ouais, bah, faut le dire. Ouais, en plus il était très bon en Italie.
Bien sûr, exactement. Je vais finir juste rapidement avec les autres sanctions, pardon, que d'autres clubs pourraient avoir, notamment Le Havre, puisque c'est la sanction la seule à part l'Olympique Lyonnais qui a été prononcée par la DNCG. Le Havre doit donc encadrer là aussi sa masse salariale et interdit de recrutement onéreux sur la période hivernale. Donc ça veut dire qu'on peut recruter des joueurs libres, mais pas des joueurs payés. Voilà, parce que forcément le Havre a un déficit de 10 millions d'euros qui traîne un petit peu depuis pas mal de temps.
Et ça, encore une fois, aussi. C'est horrible pour le Havre parce qu'au final, c'est les seuls qui se sont fait entre guillemets
entubés
dans le
recrutement. Ces 10 millions, ils doivent les avoir.
Et bah oui, c'est clair. Voilà, ils ont pas eu de dans les droits télé, ils ont rien eu. Ils ont pas eu d'enveloppe, ils ont eu zéro. Donc ils se sont fait avoir complètement dans.
Je comprends pas comment c'est possible.
Ah non, mais ça, c'est
sachant que cet été, le club ne pouvait déjà pas recruter. Hein. Ah, mais ils ont recruté que des joueurs libres et pareil encadrement de masse.
C'est une honte et le foot français laisse faire ça en fait. On a laissé faire ça et donc là, du coup, on a un club qui se retrouve sanctionné par la DNCG alors qu'elle a pas eu les mêmes droits que tout le monde en fait. C'est incroyable.
Et je vais finir aussi avec deux clubs, dont le tien. Oui. Forcément, on va parler de Lens très rapidement parce qu'on a un énorme trou dans les caisses à Lens. J'espère que tu vas pouvoir nous en parler rapidement quand même pour qu'on puisse après enchaîner sur le Vendée Globe au moins. Mais là aussi, on a eu des promesses de vente cet été qui n'ont pas été tenues du tout. C'est même pas trop, c'est vraiment pas du tout. Parce que je crois qu'on promettait quoi, 117 millions.
Ouais,
ce que j'ai vu. Comment tu peux cet été te dire je vais vendre 117 millions. Tu vends quoi? Tu vends le stade? Tu vends
ils
les joueurs?
Ils ont vendu Wai, mais le problème c'est que Wai il l'avait acheté un peu plus cher, donc du coup ça c'est qu'il est déjà, pas forcément. Ouais. Il y avait l'épisode d'Anso. Danso qui devait partir à la Roma du coup il est pas parti. Donc déjà t'as ça qui bon, ça a pas suivi. Je pense qu'il y avait des joueurs qui ils auraient bien aimé faire partir. Comme Nampalis Mendy ou d'autres, donc malheureusement, écoute, tu vends pas forcément tes joueurs au prix ou t'as pas pu les vendre. Je pense qu'ils attendaient des offres aussi sur certains joueurs qui sont pas forcément venus. Je pense qu'ils auraient bien aimé se séparer de Brice Samba aussi à un moment donné, parce que c'est ce qui rapporte un peu d'argent. Et eux aussi n'ont pas eu la totalité des droits télé aussi. Ils attendent encore un chèque. Donc voilà.
Voilà, t'as à peu près tout aussi. Dit. Même si il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes en termes de vente jusqu'à la fin de saison pour Lens, et notamment un certain Kouzanov qui fait un début de saison.
Oui, apparemment, Amory veut le récupérer à Marseille. Enfin, le club de Marseille veut récupérer Kouzanov.
On parle de plus grosses sommes. Je pense que aujourd'hui, je sais pas si Marseille.
J'ai pas vu l'info.
C'est ce que j'ai vu comme info.
J'ai pas vu l'info passer. Alors, pourtant, c'est beaucoup possible. Des comptes, mais.
Mais bon, voilà.
On verra bien.
Et on verra. C'est vrai que Kouzanov, c'est la grosse valeur marchande du club actuellement.
Qui a été recruté 100 000 euros cet été, je crois.
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans. Ouais. Donc voilà, assez impressionnant. Et puis pour finir, c'est aussi Montpellier qui se retrouve donc à la dernière place de Ligue 1 et qui risque de ne pas pouvoir recruter et même être obligé de vendre. On parle notamment déjà de pré-vente, notamment d'Omragic, qui est leur défenseur central.
Bessir Omragic,
exactement, le Suisse, qui est arrivé il y a un an. Libre, voilà. Ça aussi, c'était un top transfert et ça a bien marché pour lui. Malheureusement, je pense que c'est bientôt la fin. Et enfin, malheureusement pour sa carrière, j'en suis pas si sûr. Vu l'état de Montpellier, on va enchaîner avec le Vendée Globe. Alors, j'avais préparé tout un petit texte pour le Vendée Globe, sauf qu'aujourd'hui, on a eu les temps de la journée et il y a eu beaucoup de changements. Je sais pas si vous avez regardé.
C'était annoncé que jusqu'à midi, niveau des vents, ça allait changer après-midi et que les places allaient évoluer aujourd'hui.
On l'a vu dans la radio.
Ça a beaucoup évolué et c'est pas en bien pour Jean Le Cam qui était donc leader jusque-là. Ouais. Il a repris la première place dimanche, il me semble, à Sam Goodchild qui du coup aujourd'hui revient à sa première place, et surtout Jean Le Cam du coup qui revient cinquième. Ouais. C'est surtout ça qui est impressionnant. Il a pas mal descendu. Ça permet aussi à Charlie Dalin, dont on avait parlé la semaine dernière comme un petit peu le favori de ce Vendée Globe, aussi de remonter, mais là aussi à la quatrième place. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette semaine de Vendée Globe autour du plateau?
Après, sur Jean Le Cam, en fait, il faut savoir qu'il a fait un choix. Ils peuvent tweeter quelques trucs. Il a mis qu'il voulait pas faire le mouton à suivre tout le troupeau. Donc la plupart des skippers sont passés, pas non plus au centre de l'océan Atlantique, mais bien plus éloigné des côtes. Et lui a fait le choix d'être passé proche des côtes, à l'est, profitant de vent qui l'avait poussé énormément au début. Il savait qu'il allait avoir une partie où il allait avancer un peu moins vite, mais il évite, alors je me rappelle plus du nom, il y a une grande partie où dans lesquelles ils vont arriver normalement demain la plupart des premiers skippers, pour tous les autres, où en fait c'est des météos qui sont hyper changeantes, et du jour au lendemain, mais même de l'heure à l'heure, tu peux avoir la tempête, passer au calme plat, etc. Lui évite un petit peu cette zone, en tout cas en étant plus proche des côtes, c'est beaucoup plus linéaire.
Cap-Vert-Mauritanie, il a fait lui
et voilà. Mais donc, du coup, ça va lui permettre d'être beaucoup plus linéaire et peut-être d'éviter certains trucs météorologiques qui peuvent être soit endommager le bateau, soit justement être calme plat et donc on n'avance pas. Donc c'est un choix fait par Jean Le Cam. Jean Le Cam, il n'a pas forcément le bateau qui lui permet d'être à la fin du Vendée Globe leader. Donc il fait un choix qui s'avéra peut-être payant, risque, qui s'avéra peut-être pas du tout payant. Et dans 3 jours, il sera peut-être 28e. On n'en sait rien. Mais en tout cas, moi, j'aime bien qu'il prenne des risques. Alors, j'aime bien Jean Le Cam déjà à la base. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il était leader.
On aime tous Jean Le Cam.
J'étais heureux. Mais donc voilà, c'est. On trouve que c'est les places sur le Vendée Globe qui évoluent 1er, 3e, 5e à la journée, surtout au début comme ça. C'est pas ce qu'il y a le plus important, c'est plus aussi de regarder quelle route ils ont pris, comment ça va et les vents qu'ils vont avoir dans les prochains jours. Maintenant, à voir la météo et ses surprises.
Ça reste assez intéressant, puis ça permet de relancer la question que j'ai posée la semaine dernière. Est-ce que, enfin, moi je dis ça en tant que Français, donc je serais quand même un peu dégoûté, mais est-ce que ça y est, c'est un Anglais? Ou en tout cas quelqu'un d'autre qu'un Français.
Non, on est qu'au début.
C'est sûr qu'on est à la première semaine, mais on peut quand même commencer à avoir
Il fait partie de ces skippers qui visent la victoire et qui lui n'a pas besoin, comme Jean Le Cam, de tenter quelque chose spécifiquement. Maintenant, il est pas seul. Ils sont, on va dire 4-5 être dans ces favoris là avec les tout meilleurs bateaux. On verra bien. Ce sera des choix, une part de chance et surtout on a fait une semaine alors qu'il y en a pour 80 jours donc
ouais, il y en a encore
laissons le temps faire ce tour du monde en bateau.
Amaury, on va te laisser la parole parce que tu as forcément du rugby à nous parler.
Oui, la semaine dernière, je finissais la chronique internationale en parlant du 15 de France et cette victoire face au Japon, tout en annonçant ce match face aux All Blacks. Eh bien, je vais la reprendre, cette chronique, en reparlant de ce match, remporté une fois de plus par les Bleus, j'ai envie de dire. Oui, je dis une fois de plus, c'est-à-dire depuis le début du mandat de Fabien Galthié, c'est 3 matchs contre les All Blacks, c'est 3 victoires. Alors, on a eu souvent, et Fabien Galthié, du très bon, parfois du un peu moins bon, mais face aux All Blacks, c'est toujours du super rugby. Et ce samedi, au Stade de France, la France... à peine plus d'un an après le match donc face aux Blacks en ouverture de Coupe du Monde, ont répondu présent, notamment dans l'intensité. Et pourtant, début de match n'était pas du tout en leur faveur. Ils ont notamment été dominés dans tous les secteurs du jeu, mais notamment en mêlée. Mais grâce à une deuxième période beaucoup plus aboutie, notamment avec du courage, de la solidité défensive, ils ont fini par gagner 30 à 29. Et avec un super Thomas Ramos, 15 points, une passe décisive. Ouais. Donc, comme le disait Fabien Galthié, c'est une victoire fondatrice après une année un peu plus compliquée dans les résultats, cet échec à la Coupe du Monde, ce tournoi destination un peu raté et surtout quelques affaires qui ont traîné ces derniers temps, notamment en Argentine. On va pas spécialement revenir dessus.
Non, ouais.
Mais est-ce que vous avez pu voir le match déjà? J'imagine que oui, au moins le suivre. Flo, t'as pu.
Écoute, ouais, je me suis régalé. C'était. C'est ça. En fait, on va faire un parallèle avec le débat qu'on a eu dans la première demi-heure de l'émission. C'est que, écoute, maintenant, s'il y a un match de rugby, t'as envie de le regarder. T'as pas envie de le louper, t'as envie de le voir, t'es transcendé par cette équipe. Et la réalisation qui a été faite, par le Stade de France, par l'organisation de cette rencontre avec le stade plongé dans le noir, avec les hymnes, avec l'hymne de l'équipe de France a cappella, le bleu blanc rouge derrière, le AK derrière aussi, qui était vraiment mis en lumière. On voyait que ça, c'était un théâtre magnifique. Franchement, je ne loupe pas une miette de cette équipe de France et de cet homme Antoine Dupont qui pourrait faire du Scrabble. Je pense que je pourrais regarder.
Totalement. Donc l'équipe de France qui a remporté son match et qui reste sur 3 victoires face aux All Blacks. J'avais aussi envie de vous parler de biathlon aujourd'hui. Ce week-end, c'était le retour du biathlon avec la pré-saison. Si vous connaissez pas spécialement le biathlon, c'est un mélange entre du ski de pont et du tir à la carabine où les Français sont plutôt bons, que ce soit chez les gars
c'est
ou
bon
chez les filles.
J'adore le résumé.
Et donc ce week-end, l'intérêt sportif des courses n'était pas spécialement le plus important, c'était de la pré-saison, mais on a quand même eu une belle performance de Éric Perrault et de Fabien Claude, 4e et 5e sur la course, derrière 3 Norvégiens, oui, eux aussi, ils sont pas mal. Mais ce pourquoi je voulais en parler, c'est un sport qui est très agréable à regarder et qui est en clair sur l'équipe depuis pas mal d'années. Et donc ça fait plaisir quand on sait l'accès est compliqué au sport qu'on a. On a parlé assez longuement depuis début septembre sur Génération Sport. Donc est-ce que les gars, vous suivez un peu le biathlon, que ce soit sur les autres années, cette année vous suivez ça?
Ouais, moi carrément, tous les hivers et un peu plus que ça dure jusqu'au printemps en général. Bah, souvent voilà, devant l'équipe avec mon père, on regarde un peu vraiment toutes les courses masculines, féminines, tous les formats et ouais, c'est vraiment sympa à regarder. Ça me fait, je sais pas, penser un peu au vélo qu'on a l'été mais ouais, mais l'hiver. Et puis surtout, les Français s'en sortent toujours bien depuis Martin Fourcade, notamment.
Raphaël Poiret avant aussi. Ouais,
on a toujours.
C'est l'époque que j'ai un peu moins connu.
Ouais.
Mais on avait chez les filles, on avait Marie-Dorin Imbert à l'époque.
Oui,
voilà, on a toujours, en fait, il y a toujours du monde. La saison des filles l'année dernière, exceptionnelle.
Ouais.
Les gars ont fait pas mal de podiums, même si un petit peu moins de victoires, mais pas mal de podiums aussi. C'est agréable à regarder et on gagne. Donc, forcément, quand on est chauvin comme nous, ça fait plaisir. Est-ce qu'il nous reste du temps pour...
Il nous reste 30 secondes.
Eh bien, bah, on va finir dans ce cas-là avec la séquence émotion en tennis. Raphaël Nadal a peut-être joué son dernier match. C'était tout à l'heure face à Van Den Sloop. Il a perdu malheureusement en 2-7 malgré une petite remontée. Un match que je pouvais pas rater. Je l'ai regardé. Pour vous dire si c'est son dernier match, il faut voir le résultat de Carlos Alcaraz qui mène 1-7-0, 4 jeux à 2 dans le deuxième set. Donc Raphaël Nadal devrait certainement rejouer un match dans cette Coupe Davis. Mais on est sur la toute fin de la carrière de Raphaël Nadal.
Vous nous avez parlé il y a quelques semaines, en tout cas, de la carrière de Raphaël Nadal. On va pas y revenir ce soir, mais vraiment, c'est un grand homme. On peut lui jeter toutes les fleurs qu'on peut lui imaginer, des roses, des tulipes, des capucines, des tout ce que vous voulez. En tout cas, on peut jeter des fleurs sur la carrière de Raphaël Nadal. C'est un immense joueur. On se quitte là-dessus. C'était peut-être le dernier match de Raphaël Nadal. On en reparlera la semaine prochaine dans Génération Sport. Ciao, ciao, et passez une bonne semaine sportive.